un de mes avatars dans l'un de mes premiers romans, je crois que c'était Ben Mears dans Salem, affirme que c'est une mauvaise idée de parler d'un récit qu'on envisage d'écrire. C'est comme le pisser par terre, voilà sa formule. Pourtant, il m'arrive, surtout si je me sens enthousiaste, de trouver difficile d'écouter mon propre conseil. Ce fut le cas avec Mr. Yummy. Quand j'en ai brossé l'esquisse sommaire à un ami, il m'a écouté attentivement, puis a secoué la tête. « Je crois pas que t'aies rien de nouveau à dire sur le sida, Steve. » Il a marqué une pause et ajouté « Surtout en étant hétéro. » « Eh bien non. Non et non. Et surtout, non. » Je déteste ce postulat selon lequel on ne peut pas écrire sur un sujet sous prétexte que l'on n'en a pas fait l'expérience, et pas juste parce que ça suppose une limite à l'imagination humaine, qui est essentiellement sans limite. Cela suggère aussi que certains actes d'identification sont impossibles. Je refuse d'accepter ça, car cela mène à la conclusion que tout changement réel est hors de notre portée, de même que l'empathie. Cette notion est d'évidence fausse. Les merdes arrivent, le changement aussi. Si les Irlandais et les Anglais peuvent faire la paix, il nous faut croire qu'il y a une chance qu'un jour ou l'autre les Juifs et les Palestiniens arriveront à s'entendre. Si le changement arrive, c'est le résultat d'un travail ardu. Je crois que nous serions tous d'accord là-dessus. Mais le travail ardu ne suffit pas. Le changement exige aussi un bond énergique de l'imagination. À quoi est-ce que ça ressemble vraiment d'être dans les souliers de l'autre, fille ou gars? Et puis, j'ai jamais voulu écrire une histoire sur le sida ou sur le fait d'être gay, de toute façon. Ces éléments constituaient seulement le dispositif d'encadrement du récit. Ce sur quoi je voulais écrire, c'était le pouvoir brutal de la pulsion sexuelle chez les humains. Ce pouvoir, me semble-t-il, nous gouverne tous, quelle que soit notre orientation, et tout particulièrement quand on est jeune. À un moment ou à un autre, le bon soir ou le mauvais soir, au bon endroit ou au mauvais endroit, le désir monte et refuse de se laisser dompter. La prudence est balayée, la pensée rationnelle s'arrête, le risque n'a plus d'importance. C'est sur ça que j'ai voulu écrire. Mr. Yummy. 1. Dave Colon était en train d'aider Olga Gluckoff à construire la tour Eiffel. Cela faisait 6 matins maintenant qu'il s'y consacrait, 6 matins aux aurores, dans la salle commune du centre de vie assistée de Lakeview. Il ne s'y trouvait pas exactement seul, les vieilles gens sont des lève-tôt. L'écran plat géant à l'autre bout de la salle avait commencé à débiter la soupe démagogique habituelle de Fox News à 5h30, et un certain nombre de résidents étaient plantés devant, la bouche béante. « Ah !» dit Olga. « En voilà une que je cherchais depuis longtemps. » Du pouce, elle enfonça un morceau de poutrelle à sa place, à mi-hauteur du chef-d'œuvre de Gustave Eiffel, créé, d'après ce qu'on pouvait lire au dos de la boîte, à partir de métal de récupération. Dave entendit le tapotement d'une canne se rapprocher dans son dos et accueillit le nouveau venu sans tourner la tête. « Bonjour, Harley. Tu t'es levé de bonne heure, dis-moi. » Jeune homme, jamais il n'aurait cru qu'on puisse identifier quelqu'un simplement au son de sa canne, mais jeune homme, il n'avait jamais rêvé qu'il terminerait son temps sur Terre dans un endroit où tant de gens en utilisaient. « Bien le bonjour à toi, » dit Harley Franklin, « et à vous, Olga. » Elle leva brièvement les yeux avant de les baisser vers le puzzle. Un 1000 pièces d'après la boîte, dont la plupart avaient maintenant trouvé leur place. Ces poutrelles, quelle plaie! Je les vois flotter devant moi chaque fois que je ferme les yeux. Je crois que je vais sortir fumer une cigarette, me réveiller les poumons. Fumer était officiellement « verboten » à Lakeview, mais on laissait Olga et quelques autres irréductibles s'esquiver par la porte de la cuisine pour aller fumer sur le quai de déchargement où il y avait un cendrier. Olga se leva, chancela, jura en russe, ou bien en polonais, retrouva son équilibre et s'éloigna en traînant les pieds. Puis elle s'arrêta et se retourna pour regarder Dave, ses sourcils froncés se rejoignant. « Tu m'en laisses quelques-unes, Bab? Promis ?» Il leva la main, lui montrant sa paume. « Que Dieu m'en soit témoin !» Satisfaite, elle reprit sa marche traînante, plongeant la main dans sa robe d'intérieur informe pour y récupérer ses clopes et son briquet Bic. Harley fronça lui aussi les sourcils. « Depuis quand tu t'appelles Bob ?»« C'était son mari, tu te souviens? Ils sont arrivés ici ensemble. Il est mort il y a 2 ans. »« Ah, exact. Et maintenant elle perd la boule. Quelle misère !» Dave haussa les épaules. « Elle aura 90 ans à l'automne, si elle tient jusque-là. Elle a bien le droit à quelques ratés d'engrenage. Et regarde ça !» Il désigna le puzzle qui occupait toute une table de jeu. « Elle a presque tout fait toute seule. » Je suis juste son assistant. Ali, qui avait été graphiste dans ce qu'il appelait sa vie réelle, considéra le puzzle presque terminé avec mélancolie. La tour Eiffel. Tu savais que pendant sa construction, des artistes ont manifesté contre? Non, mais ça m'étonne pas, les Français... Le romancier Léon Blois l'a qualifié de lampadaire véritablement tragique. Cullen considéra le puzzle, vit ce que Blois avait voulu dire et rit. Ça ressemblait vraiment à un lampadaire, un genre de lampadaire. Un autre artiste ou écrivain, je me rappelle plus qui, prétendait qu'on avait la meilleure vue sur Paris du haut de la tour Eiffel parce que c'était la seule vue de Paris sans la tour Eiffel. Ali se pencha plus près, agrippant sa canne d'une main, l'autre pressée en bas du dos, comme pour le maintenir en place. Son regard passa du puzzle au reste des pièces éparpillées, peut-être bien une centaine en tout, et revint au puzzle. Houston, vous risquez d'avoir un problème là. Dave avait déjà commencé à s'en douter. Si tu dis vrai, ça va foutre en l'air la journée d'Olga. Elle aurait pu s'y attendre. Combien de fois tu penses que cette version de la tour Eiffel a été construite et détruite et reconstruite à nouveau? Les vieux sont aussi peu soigneux que les ados. Il se redressa. Tu veux bien venir faire un tour avec moi dans le jardin? J'ai quelque chose à te donner, et aussi quelque chose à te dire. Dave examina le visage de Harley. Ça va? L'autre choisit de ne pas répondre. Viens, sortons, c'est un matin splendide. Ça se réchauffe tout doucement. Harley ouvrit la marche, en direction du patio, tapant de sa canne ce rythme à trois temps familier, saluant quelqu'un d'un petit geste de la main, en passant devant la coterie de téléspectateurs buvant du café. Dave le suivit d'assez bon gré, encore que légèrement interloqué. 2. Lakeview était bâti en forme de U, avec la salle commune au centre entre les deux bras allongés qui comprenaient les suites de vie assistées, chacune d'entre elles consistant en un salon, une chambre et le genre de salle de bain équipée d'une main courante et d'une chaise de douche. Ces suites n'étaient pas données. Malgré le fait que bon nombre des résidents n'étaient plus à proprement parler continent, Dave avait commencé à subir ses premiers accidents nocturnes peu après son 83e anniversaire et stockait désormais des boîtes de change complets pour adultes sur l'étagère supérieure de son placard, Lakeview n'était pas le genre d'endroit qui sentait la pisse et le désinfectant. Les chambres étaient également équipées de la télé par satellite. Il y avait un distributeur de friandises dans chaque aile du bâtiment et deux fois par mois avaient lieu des dégustations de vin. L'un dans l'autre, trouvait Dave, ce n'était pas un si mauvais endroit que ça où finir sa destinée. Le jardin, situé entre les deux ailes résidentielles, était luxuriant, quasi orgasmique, en ce début d'été. Des sentiers serpentaient, une fontaine centrale jaillissait, le tout parmi une explosion de fleurs tout à fait maîtrisée et bien léchée. Ici et là étaient disposés des téléphones en ligne directe, d'où un promeneur, soudain saisi d'essoufflement ou d'un engourdissement diffus des jambes, pouvait appeler pour demander de l'assistance. Il y aurait plus tard quantité de promeneurs, quand ceux qui n'étaient pas encore levés ou quand ceux qui se trouvaient dans la salle commune seraient rassasiés de Fox News, sortiraient pour profiter de la douceur du jour avant que la chaleur ne s'installe. Mais pour l'instant, Dave et Harley avaient tout l'espace pour eux. Une fois franchis les doubles portes et descendus les marches du vaste patio dallé de pierre, les deux hommes négociant chacune d'elles avec précaution, Harley s'arrêta et commença à fouiller dans la poche du veston pied de poule déformé et flottant qu'il portait. Il en sortit une montre de gousset en argent, suspendue à une épaisse chaînette d'argent, et la tendit à Dave. « Je veux que tu prennes ça. Elle appartenait à mon arrière-grand-père. Si j'en crois la gravure qui figure à l'intérieur du couvercle, il l'a soit achetée, soit reçue en cadeau en 1890. » Dave fixait la montre, qui se balançait au bout de sa chaîne dans la main légèrement tremblante de Harley Franklin, telle une amulette d'hypnotiseur, avec un mélange d'amusement et d'horreur. « Je ne peux pas prendre ça. » Patiemment, comme s'il instruisait un enfant, Harley articula « Si tu peux, si je te la donne, et je t'ai vu l'admirer maintes et maintes fois. C'est un bien de famille. Absolument, et mon frère la prendra si elle se trouve dans mes effets quand je mourrai. Ce que je ne vais pas tarder à faire, peut-être cette nuit, assurément dans les quelques jours qui viennent. » Dave ne savait que dire. Toujours de ce même ton patient, Harley reprit. Mon frère Tom ne vaut pas la poudre qu'il faudrait brûler pour le pulvériser jusqu'à des moines. Je ne lui ai jamais dit, ce serait cruel, mais je te l'ai dit X fois, n'est-ce pas?
Oui.
Je l'ai soutenu pour surmonter trois faillites professionnelles et deux divorces. Je pense t'avoir aussi parlé de ça X fois, n'est-ce pas?
Oui, mais...
J'ai, quant à moi, bien réussi. Et j'ai bien investi, poursuivit Harley. Et il se mit à marcher en tapant son code personnel avec sa canne.
Tap, 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 tap.
Je fais partie de cet infâme 1% si vilipendé par les jeunes gauchistes. Pas de beaucoup, sache-le. Mais avec une marge suffisante pour avoir pu vivre confortablement ici ces 3 dernières années, tout en continuant à servir de filet de sécurité à mon petit frère. Je n'ai plus besoin de fournir ce service à sa fille, Dieu merci. Martha semble partie pour faire son chemin toute seule. Ce qui est un soulagement. J'ai rédigé un testament, correct et régulier, dans lequel je fais ce qui doit être fait. Sur le plan familial. Comme je n'ai ni femme ni enfant de mon côté, ça signifie que je laisse tout à Tom. Sauf ceci. Ceci, c'est pour toi. Nous sommes de bons amis. Alors je t'en prie, prends-la. Dave réfléchit, décida qu'il pourrait la restituer une fois que les prémonitions mortelles de son ami seraient passées, et prit la montre. Il actionna le cliquet d'ouverture et admira le cadran en cristal. 6h22, pile à l'heure pour autant qu'il pouvait l'estimer. L'aiguille des secondes se déplaçait, alerte, dans son propre petit cercle, juste au-dessus du 6 ouvragé. Nettoyé plusieurs fois, mais réparé seulement une, dit Harley, en reprenant sa lente déambulation. Après que mon père l'a laissé tomber dans le puits de la vieille ferme à Hemingford Home. 1923, m'a dit grand-père. Tu imagines? En plus de 120 ans, réparé une seule fois. Combien d'êtres humains sur Terre peuvent en dire autant? Une douzaine? 5 ou 6 peut-être? Tu as 2 fils et 1 fille, c'est ça?
C'est ça, confirma Dave.
Son ami était devenu incroyablement frêle au cours de l'année écoulée. Et sa chevelure n'était plus qu'un duvet de bébé clairsemé sur son crâne piqueté de taches de vieillesse, mais son cerveau tournait un peu plus rond que celui d'Olga, ou le mien, admit intérieurement Dave. La montre ne figure pas dans mon testament, mais elle devrait figurer dans le tien. Je suis sûr que tu aimes tes enfants de manière équitable, tu es ce genre de type-là, mais apprécier c'est autre chose, n'est-ce pas? Tu l'allégueras à celui ou celle que tu apprécies le plus. Donc, à Peter, pensa Dave. Et il sourit. Lui rendant son sourire, ou bien saisissant la pensée qui l'avait motivée, Harley écarta les lèvres sur ses dents restantes et hocha la tête. « Asseyons-nous. Je suis claqué. Il me faut pas grand-chose ces temps-ci. » Ils s'assirent sur l'un des bancs et Dave en profita pour tenter de lui rendre la montre. Harley repoussa ses mains en un geste de rejet si outrancier qu'il en était comique, et Dave ne put que rire. Même s'il avait conscience qu'il s'agissait là d'une affaire sérieuse, certainement plus sérieuse que quelques pièces de puzzle manquantes. Le parfum des fleurs était entêtant, divin. Lorsque Dave Calhoun pensait à la mort, plus très éloignée désormais, la perspective qu'il regrettait le plus était la perte du monde sensoriel et de tous ses luxes ordinaires. La vision du décolleté plongeant d'une femme, le son de Cozy Cole se défoulant sur sa batterie dans Topsy, Part 2. Le goût de la tarte au citron sous un nuage de meringue, le parfum de fleurs qu'il n'aurait su nommer, mais que son épouse aurait toute connue par cœur.
Harley, il se peut que tu meures cette semaine. Dieu sait que nous tous ici avons un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. Mais tu n'as aucun moyen d'en être sûr. J'ignore si tu as fait un rêve, ou si un chat noir a croisé ta route, ou quelque autre chose. Mais les prémonitions, c'est des conneries.
J'ai pas seulement eu des prémonitions, dit Harley. J'en ai vu une. J'ai vu Mr. Yummy. Je l'ai vu plusieurs fois ces 15 derniers jours, toujours de plus près. Dans pas longtemps, il viendra me voir dans ma chambre et s'en sera fini. Ça m'est égal. En fait, j'ai hâte que cela arrive. La vie est une chose épatante, mais quand on vit trop longtemps, elle finit par s'user avant de s'épuiser.
Mr. Yummy? Répéta Dave Calhoun.
Qui diable est ce Mr. Yummy?
« Ce n'est pas vraiment lui, » précisa Harley comme s'il n'avait pas entendu.
« Je le sais. C'est une représentation de lui. La conjonction d'un espace et d'un temps, si tu veux, même s'il y a eu un Mr. Yummy réel par le passé. C'est comme ça que mes amis et moi l'avons appelé, ce soir-là, au High Pockets. Je n'ai jamais su son vrai nom.
Je ne te suis pas.
Écoute, tu sais que je suis gay, hein ?»
Dave sourit.
Bah, j'imagine que des années de drague étaient déjà terminées quand on s'est rencontrés, mais j'avais comme une idée, oui.
À cause de l'inscrite?
C'est ta façon de marcher, pensa Dave.
même avec une canne. Ta façon de passer tes doigts dans ce qu'il te reste de cheveux, puis de chercher ton reflet dans le miroir. Ta façon de rouler des yeux devant les personnages féminins de Desperate Housewives. Même les natures mortes au crayon dans ta chambre qui dessinent une sorte de chronologie de ton déclin. Un jour, t'as dû être du tonnerre, mais aujourd'hui tes mains tremblent. Tu as raison, ça s'use avant de s'épuiser. Entre autres, dit Dave. As-tu déjà entendu quelqu'un dire qu'il était trop vieux pour avoir participé à l'une des aventures militaires américaines? Le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan? Bien sûr. Même si ce qu'on dit généralement, c'est qu'on était trop jeune. Le sida fut une guerre. Ali avait les yeux baissés vers ses mains déformées que le talon était en train de quitter. Et je n'ai pas été trop vieux tout le temps qu'elle a duré, parce que personne ne l'est quand la guerre est livrée sur son propre territoire. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est assez vrai. Je suis né en 1930. Quand le sida a pour la première fois été observé et décrit cliniquement aux États-Unis, j'avais 52 ans. Je vivais à New York. Je travaillais en freelance pour différentes agences de publicité. Mes amis et moi continuions à sortir de temps en temps dans les clubs de Greenwich Village. Pas au Stonewall, un bouge tenu par la mafia, mais dans quelques autres. Un soir, j'étais dehors devant le Peter Peppers, dans Christopher Street. Je fumais un joint avec un copain quand une bande de jeunes mecs sont entrés. Des jolis mecs en pantalon moulant et évasé, et ces chemises qu'ils portaient à l'époque, avec les épaules larges et resserrées à la taille. Bottines en daim à talons bottiers. Des garçons appétissants, suggéra Dave. Sûrement, mais pas le garçon appétissant. Et mon meilleur ami, il s'appelait Noah Fremont, il est mort l'année dernière. Je suis allé à son enterrement, s'est tourné vers moi pour me dire « Il nous voit même plus, on dirait. » Et j'ai acquiescé. « Il te voyait si tu avais assez d'argent, mais nous étions trop dignes, je pense qu'on pourrait dire ça. Avoir à payer était dégradant, même si certains d'entre nous le faisaient de temps en temps. Pourtant, dans les années 50, quand j'ai débarqué pour la première fois à New York, il haussa les épaules et son regard se perdit au loin. « Quand tu as débarqué pour la première fois à New York ?» relança Dave. « Je cherche comment dire ça. » À la fin des années 1950, quand les femmes se pâmaient encore devant Rock Hudson et Liberace, et que l'homosexualité était l'amour qui n'ose pas dire son nom plutôt que celui qui ne sait pas la fermer, ma vitalité sexuelle était à son paroxysme. Dans cette mesure-là, ce n'est pas la seule, j'imagine, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, les hommes sont les mêmes, qu'ils soient homo ou hétéro. J'ai lu quelque part qu'en présence d'un semblable attirant, les hommes pensent au sexe toutes les 20 secondes environ. Mais quand un homme est dans l'adolescence ou dans la vingtaine, il pense au sexe constamment, qu'il soit ou non en présence d'un semblable attirant. « On bande dès que le vent se lève », dit Dave. Il se souvenait de son premier job, pompiste, et d'une jolie rousse qu'il avait vue descendre en se laissant glisser jusqu'à terre du siège passager de la camionnette de son copain. Sa jupe lui était remontée sur les cuisses, révélant une seconde à peine, deux tout au plus, sa petite culotte toute simple en coton blanc. Pourtant, cet instant-là, il n'avait cessé de se le repasser en se masturbant, et même s'il n'avait que 16 ans à l'époque, le souvenir était encore vivace. Il doutait que l'impact eût été le même s'il avait eu 50 ans. Parvenu à cet âge, il avait déjà vu des tas de sous-vêtements féminins. Certains chroniqueurs conservateurs ont surnommé le sida la peste gay, avec une satisfaction mal déguisée. C'était une peste, oui, mais autour de 1990, la communauté gay était assez bien fixée sur la chose. Nous avions compris quelles étaient les deux mesures de prévention les plus élémentaires, pas de sexe non protégé et pas d'échange d'aiguilles. Mais les jeunes hommes se croient immortels, et comme ma grand-mère avait l'habitude de dire quand elle était pompette, une queue qui bande n'a aucune conscience. C'est tout spécialement vrai quand le propriétaire de ladite queue est sous, défoncé ou en proie aux affres de l'attraction sexuelle. Ali soupira, haussa les épaules. Des risques ont été pris, des erreurs commises, même après que les vecteurs de transmission eurent été bien compris, des dizaines de milliers d'homos sont morts. Les gens commencent à peine à prendre la pleine mesure de cette tragédie, car la majorité des gens ont fini par comprendre que les homos ne choisissent pas leur orientation sexuelle. Grands poètes, grands musiciens, grands mathématiciens et scientifiques, Dieu sait combien sont morts avant que leur talent ait pu s'épanouir. Ils sont morts dans le caniveau, dans des appartements sans eau chaude, dans des hôpitaux ou dans les services réservés aux indigents. Tout ça pour avoir pris un risque un soir où la musique était forte, le vin coulait et les poppers pétillaient. Par choix, il y en a encore beaucoup qui disent ça, Mais c'est absurde. La pulsion est trop forte, trop primitive. Si j'étais né 20 ans plus tard, j'aurais pu être au nombre des victimes. Mon ami Noah aussi. Mais il est mort d'une crise cardiaque, dans son lit, et je mourrais de... peu importe quoi. Parce que quand on arrive à la cinquantaine, il y a moins de tentations sexuelles, et il est plus facile d'y résister. Et même si la tentation est forte, le cerveau est parfois capable de dominer la queue, au moins le temps d'attraper un préservatif. Je ne suis pas en train de dire que des tas d'homos de mon âge ne sont pas morts du sida. Si, hélas, pas plus idiot qu'un vieil idiot, n'est-ce pas? Certains étaient mes amis, mais ils ont été moins nombreux que les jeunes mecs qui se pressaient tous les soirs dans les boîtes de nuit. Avec ma propre clique, Noah, Henry Reed, John Rubin, Frank Diamond, on sortait parfois juste pour voir tous ces jeunes mecs se livrer à leur danse nuptiale. On ne bavait pas, mais on regardait. On n'était pas si différents des copains de golf d'âge mûr qui vont chez Hooters une fois par semaine juste pour voir les serveuses seins nus se pencher sur eux. Ce genre de comportement peut être vaguement pathétique, mais il est tout à fait naturel. Ou tu n'es pas d'accord? Dave secoua la tête. Un soir, on était 4 ou 5, on s'est retrouvés dans un club qui s'appelait le High Pockets. Je crois qu'on n'était pas loin de décider de partir quand un jeune mec est entré tout seul. Il ressemblait un peu à David Bowie. Il était grand, vêtu d'un cycliste blanc moulant et d'un t-shirt bleu aux manches coupées. Longs cheveux blonds coiffés en un haut pompadour qui était en même temps drôle et sexy. Du rouge aux joues, naturel, pas du fard, accompagné d'un poudroiement de paillettes argentées. Une bouche en cœur parfaite. Tous les regards se sont tournés vers lui. Noah m'a saisi le bras et m'a dit « C'est lui, c'est Mr. Yummy. Je donnerais $1000 pour le ramener chez moi. » J'ai ri en disant qu'on l'achèterait pas pour $1000. À cet âge-là, avec cette allure-là, tout ce qu'il voulait c'était être admiré et désiré. Et baiser comme un dieu aussi souvent que possible. Et quand on a 22 ans, ça veut dire souvent. Bien vite, il se retrouvait dans un groupe de jolis garçons, mais aucun aussi joli que lui, tous riant, buvant et dansant ce qui se dansait à l'époque. Aucun d'eux n'accordant le moindre regard au quatuor d'hommes d'âge mûr buvant du vin à une table très en retrait par rapport à la piste de danse. Des hommes d'âge mûr, encore à 5 ou 10 ans d'arrêter leurs efforts pour faire plus jeune que leur âge. Pourquoi est-ce qu'ils nous auraient regardés quand il avait tous ces jeunes hommes adorables en train de se disputer son attention? Et Frank Diamond a dit « Il sera mort dans un an, on verra s'il sera encore joli alors. » Sauf qu'il s'est pas contenté de le dire, il l'a craché, comme si c'était une espèce de, je ne sais pas, de bizarre lot de consolation. Harley, qui avait survécu à l'époque du placard pour connaître celle où le mariage homosexuel était légal dans la plupart des États américains, haussa une fois de plus ses épaules minces, comme pour dire que tout ça, c'était de l'histoire ancienne. Voilà donc ce qu'était notre Mr. Yummy, une conjonction de tout ce qui était beau et désirable et hors d'atteinte. Je ne l'ai jamais revu jusqu'à il y a 2 semaines de ça, ni au High Pockets, ni au Peter Pepper's ou au Tall Glass, ni dans aucun des clubs que je fréquentais, même si je les ai fréquentés de moins en moins assidûment à mesure que l'ère Reagan, comme on l'appelle, s'écoulait. À la fin des années 1980, fréquenter les clubs gays était devenu trop bizarre. Comme assister au bal masqué dans la nouvelle de Pau sur la mort rouge. Tu sais, allez tout le monde, on se lâche. Prenez une autre coupe de champagne et faites pas attention à tous ces gens qui tombent comme des mouches. Il n'y avait pas de quoi s'amuser avec ça, sauf si t'avais 22 ans et encore l'impression que t'étais à l'épreuve des balles. Ça a dû être dur. Harley leva la main qui n'était pas mariée à sa canne et fit « comme ci, comme ça ». Oui et non. C'est ce que les alcooliques repentis appellent la vie selon ses propres termes. Dave envisagea d'en rester là, puis décida qu'il ne pouvait pas. Le cadeau de la montre était trop perturbant. « Écoute ton vieil oncle Dave, Harley. Tout en mots d'une syllabe, tu n'as pas vu ce gosse. Tu as pu voir quelqu'un qui lui ressemblait un peu, mais si ton Mr. Yummy avait 22 ans à l'époque, il en aurait dans les 50 aujourd'hui. S'il avait réchappé du sida, cela dit. » C'est juste un tour que t'as joué ton cerveau. Mon cerveau âgé, dit Harley en souriant, mon cerveau quasi sénile. Je n'ai jamais dit sénile, tu ne l'es pas, mais ton cerveau est âgé, oui. Sans aucun doute, mais c'était lui, c'était bien lui. La première fois que je l'ai vu, il était dans Maryland Avenue, en bas de l'artère principale. Quelques jours plus tard, il se prélassait sur les marches du porche de l'entrée principale en fumant une cigarette au clou de girofle. Il y a 2 jours, Il était assis sur un banc devant le bureau des admissions, toujours vêtu de ce t-shirt sans manches bleu et de ce cycliste blanc aveuglant. Il aurait dû provoquer un arrêt de la circulation, mais personne ne le voyait, sauf moi, je veux dire. « Je refuse d'entrer dans son jeu, » pensa Dave. « Il mérite mieux. »« Tu as des hallucinations, l'ami. » Ali ne se laissa pas démonter. Juste à l'instant, il était dans la salle commune en train de regarder la télé avec les autres leftos. Je l'ai salué de la main et il m'a rendu mon salut. Un grand sourire, étonnamment jeune, éclaira le visage de Ali. Il m'a aussi balancé un clin d'œil. Un cycliste blanc? Un t-shirt sans manches? 22 ans et beau garçon? J'ai beau être hétéro, je l'aurais remarqué. Il est là pour moi, donc il n'y a que moi qui peux le voir. C'est QFD. Ali se hissa sur ses pieds. On rentre? Je suis d'attaque pour le café. Ils se dirigèrent vers le patio où ils graviraient les marches aussi prudemment qu'ils les avaient descendues. Naguère, ils avaient vécu à l'ère Reagan. Aujourd'hui, ils vivaient à l'ère des hanches de verre. Quand ils arrivèrent sur le dallage de pierre donnant sur la salle commune, tous deux firent halte pour reprendre leur souffle. Quand Dave put parler, il dit « Donc, qu'avons-nous appris à l'école aujourd'hui, les enfants ? Que la mort personnifiée n'est pas un squelette chevauchant un cheval blême, une faux sur l'épaule, mais un garçon sexy de piste de danse avec des paillettes sur les joues ?»« J'imagine que chaque personne voit un avatar différent, » suggéra doucement Harley. « D'après ce que j'ai lu, la majorité voit leur mère au moment de franchir les portes de la mort. » « Harley, la majorité des gens ne voit personne, et tu n'es pas à l'article de la « ma mère, de toute façon, est morte peu après ma naissance, donc je ne l'aurais même pas reconnue. » Il commença à se diriger vers les doubles portes, mais Dave le prit par le bras. « Je garderai ta montre jusqu'au soir de Halloween. Ça te va ? 4 mois, et je la remonterai religieusement. Mais si tu es encore parmi nous à ce moment-là, tu la récupéreras. Ça marche ?» Ali s'illumina. « Absolument. Allons voir comment Olga s'en sort avec sa tour Eiffel, d'accord ?» Olga était revenue à la table de jeu. Elle fixait le puzzle du regard. Un regard plutôt mécontent. « Je t'ai laissé les 3 dernières pièces, Dave. » Mécontente ou pas, elle savait au moins de nouveau qui il était. « Mais ça nous laisse quand même 4 trous. Après une semaine de travail, c'est très décevant. » « Il arrive que la poisse nous tombe dessus, Olga, » dit Dave en s'asseyant. Du pouce, il cloua les pièces restantes à leur place avec une satisfaction qui remontait aussi loin que les jours pluvieux des camps d'été, où, s'avisa-t-il soudain, la salle commune ressemblait assez à celle-ci. La vie était une courte étagère livrée avec 2 serre-livres. « Pour tomber, elle tombe, » répondit Olga en contemplant les emplacements des 4 pièces manquantes. « Mais tellement de poisse, Bab! Tellement !»« Olga, moi c'est Dave. » Elle se retourna, sourcil froncé. « C'est ce que j'ai dit ?» Inutile de discuter, et inutile d'essayer de la convaincre que 996 sur 1000 était un bon score. Elle est à 10 ans d'être centenaire, mais elle pense encore qu'elle a droit à la perfection, songea Dave. Certaines personnes ont des illusions à toute épreuve. Il leva les yeux et vit Ali émerger du placard qui tenait lieu de salle d'art plastique attenant à la salle commune. Il tenait à la main un morceau de papier de soie et un crayon. Il rejoignit leur table et laissa tomber le papier aérien sur le puzzle. Hé là, qu'est-ce que vous faites ? Demanda Olga. Soyez donc un peu patiente une fois dans votre vie, mon ami. Vous verrez. Olga avança la lèvre inférieure comme une enfant boudeuse. Non, je m'en vais fumer. Si vous voulez démolir ce satané machin, ne vous gênez pas. Remettez-le dans la boîte ou flanquez-le par terre, à votre guise. Il ne vaut rien tel qu'il est. Et elle sortit avec autant de majesté que son arthrite lui permettait. Ali se laissa choir sur son siège avec un soupir de soulagement. « Ah, c'est beaucoup mieux. Me pencher me fait un mal de chien ces temps-ci. » Il traça le contour de 2 des pièces manquantes qui se trouvaient être contiguës, puis déplaça le papier de soie pour dessiner les 2 autres. Dave l'observait avec intérêt. « Ça va marcher ?»« Oh oui, » dit Ali. Il y a 2 cartons d'emballage postaux dans la salle du courrier. Je vais en chiper un. 2 coups de ciseaux, 2 coups de pinceau. Veille juste à ce qu'Olga ne pique pas une crise et ne fiche pas tout en l'air avant que je revienne. Si tu veux des photos, tu sais, pour que ça concorde, je peux aller chercher mon iPhone. Pas besoin. Ali se tapota gravement le front. J'ai mon appareil photo intégré. C'est un vieux Brownie, au lieu d'un smartphone, mais il marche encore plutôt bien.
3.
Olga était encore en pétard à son retour du coin fumeur, et elle voulait en effet démonter le puzzle défectueux, mais Dave parvint à la distraire en lui agitant la planchette de Cribbage sous le nez. Ils firent 3 parties. Dave perdit les 3 et fut misconduit dans la dernière. Olga ne savait pas toujours qui il était. Il y avait des jours où elle se croyait revenue à Atlanta, vivant dans la pension de famille d'une tante à elle, mais quand il s'agissait de jouer au Cribbage, elle savait toujours où elle en était. 15 pour 2 ou un point pour sa caboche. Elle a aussi une chance de cocu, songea Dave, non sans ressentiment. Qui finit avec 20 points au foutu Cribbage? Autour de 11h15, Fox News avait laissé la place à Drew Carey bazardant ses lots dans le juste prix, Ali Franklin revint et s'approcha de la table de Cribbage. Rasé, vêtu d'une chemisette à manches courtes, il était presque coquet.
Hé, Olga, j'ai quelque chose pour vous, ma petite copine.
Je ne suis pas votre petite copine, dit Olga. Une petite lueur maligne luisait dans ses yeux. Je veux bien être roulé dans du caca d'ours si vous avez eu une petite copine un jour.
Ingratitude, ton nom est femme, répondit Ollie sans rancœur. Tendez votre main.
Et quand elle s'exécuta, il y déposa 4 pièces de puzzle toutes neuves. Elle les fixa d'un air suspicieux.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»«
Les pièces manquantes. »«
Les pièces manquantes, de quoi ?»«
Du puzzle que vous étiez en train de faire avec Dave. Vous vous souvenez du puzzle ?»
Dave entendit presque le déclic se produire sous le nuage frisé de cheveux blancs, tandis que les vieilles transmissions et les vieilles banques de données corrodées de sa mémoire revenaient à la vie.
« Bien sûr que je m'en souviens, mais celles-là n'iront jamais. »«
Essayez-les, » l'y invita Ollie.
Dave les lui prit des mains avant qu'elle ne le fasse. À ses yeux, elles paraissaient parfaites. L'une figurait la dentelle des poutrelles. Les deux contiguës figuraient un coin de nuages roses à l'horizon. La quatrième figurait le front et le béret coquettement inclinés d'un minuscule boulevardier qui aurait pu flâner sur la place Vendôme. C'était assez stupéfiant, songea-t-il. Ali pouvait bien avoir 85 ans, il était encore doué. Dave rendit les pièces à Olga qui les enfonça à leur place, l'une après l'autre. Chacune s'y logeait parfaitement.
« Voilà, » dit Dave, et il serra la main de Ollie. « Tout fini, magnifique. »
Olga était penchée si près du puzzle que son nez le touchait presque. « Cette nouvelle pièce avec les poutrelles ne s'ajuste pas bien avec celle qui l'entoure. » Dave dit, « Même de votre part, Olga, c'est un peu ingrat. »
Olga ronchonna. Au-dessus d'elle, Ollie fit frétiller ses sourcils.
Dave lui répondit de même. « Viens t'asseoir à notre table pour déjeuner. »«
Je pense que je vais sauter le déjeuner, » dit Ollie. « Notre promenade et mon dernier triomphe artistique m'ont lessivé. »
Il se pencha pour examiner le puzzle et soupira.
« Non, elle ne s'ajuste pas, mais presque. »«
Presque, ça compte que dans le lancer de fer à cheval, » dit Olga.
« Petit copain. »
Ollie repartit à pas lents vers la porte donnant sur l'aile Evergreen, tapant de sa canne ce rythme à 3 temps caractéristique. Il ne se montra pas pour le déjeuner, et quand il ne parut pas non plus pour le dîner, l'infirmière de garde alla vérifier dans sa chambre et le trouva allongé sur son couvre-lit, ses mains talentueuses entrelacées sur sa poitrine. Il semblait qu'il fût mort comme il avait vécu, paisiblement et sans faire d'histoire. Ce soir-là, Dave trouva la porte de son ami défunt ouverte. Il s'assit sur le lit débarrassé de sa literie, la montre en argent posée au creux de sa main. Le couvercle relevé, afin de pouvoir suivre la course de l'aiguille des secondes dans le petit cercle au-dessus du chiffre 6. Il regarda les biens de Ollie, les livres sur l'étagère, les carnets à croquis sur le bureau, les différents dessins collés au mur, et se demanda qui les prendrait. Le frère raté, sans doute. Il se creusa pour retrouver son nom, et celui-ci lui revint aussitôt. Tom. Et la nièce s'appelait Martha. Au-dessus du lit, il y avait un dessin au fusain représentant un très beau jeune homme à la chevelure coiffée en hauteur avec des paillettes sur les joues. Sur sa bouche en cœur errait un sourire, léger mais charmeur. 4. L'été éclata, puis il commença à décliner. Les bus scolaires roulèrent de nouveau dans Maryland Avenue. L'état de santé d'Olga Gloukov se dégrada. Elle confondait de plus en plus souvent Dave avec son époux défunt. Son habileté au Cribbage demeurait intacte, mais elle commençait à perdre son anglais. Le fils et la fille aînée de Dave avaient beau habiter en proche banlieue, c'était Peter qui venait le voir le plus fréquemment,
couvrant en voiture les 100 kilomètres les séparant depuis le comté de Hemmingford, et l'emmenait souvent son père déjeuner à l'extérieur. Halloween arriva. Le personnel décora la salle commune de guirlandes orange et noire. Les résidents du centre de vie assisté de Lakeview fêtèrent la Toussaint avec du cidre, de la tarte au potiron et des boules de popcorn pour ceux dont les dents étaient encore d'attaque. Beaucoup se déguisèrent pour la soirée, ce qui rappela à Dave Calhoun ce qu'avait dit son vieil ami au cours de leur dernière conversation. Comment, dans les années 1980, aller dans les clubs gays ressemblait trop à assister au bal masqué dans la nouvelle de Poe sur la mort rouge. Il supposait que Lakeview était aussi une sorte de club, et parfois ce club était gay. Mais il y avait un inconvénient. On ne pouvait pas le quitter, à moins d'avoir de la famille prête à vous prendre chez elle. Peter et sa femme l'auraient fait pour Dave s'il l'avait demandé. Il lui aurait donné la chambre que leur fils Jérôme avait occupée. Mais Peter et Alicia avaient retrouvé leur intimité et ils ne voulaient pas s'imposer entre eux. Par une tiède journée de début novembre, il sortit sur les dalles de pierre du patio et alla s'asseoir sur l'un des bancs. Les sentiers au-delà étaient attirants sous le soleil, mais il n'osait plus s'aventurer sur les marches. Il risquait de tomber en les descendant, ce qui serait gênant. Il risquait de ne pas être capable de se relever tout seul, ce qui serait humiliant. Il aperçut une jeune femme assise près de la fontaine. Elle portait le genre de robe à mi-mollet et en colure à volant qu'on ne voyait plus aujourd'hui que dans les vieux films en noir et blanc sur TCM. Elle avait une chevelure rousse éclatante. Elle lui sourit et lui fit coucou de la main. « Mazette, ce que tu es jolie !» pensa Dave. « Est-ce que je ne t'ai pas déjà vue, peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, descendant de la camionnette de ton copain à la station-service Humble Oil d'Omaha ?» Comme si elle avait capté cette pensée, la jolie rousse lui balança un clin d'œil, puis remonta légèrement le bas de sa robe, lui montrant ses genoux. « Bonjour, mes amis, » pensa Dave. « Puis, tu m'as montré bien plus que ça autrefois. » Il rit à ce souvenir. Elle rit aussi. Ce rire, il le vit mais ne l'entendit pas, bien qu'il fût tout près et qu'il eût l'ouïe encore très affûtée. Puis elle s'éloigna derrière la fontaine et ne reparut pas. Pourtant, Dave avait des raisons de croire qu'elle reviendrait. Ce qu'il avait aperçu là, c'était ni plus ni moins que la force de vie, le puissant cœur battant de la beauté et du désir. La prochaine fois, elle serait encore plus près. 5. Peter descendit en ville la semaine suivante et ils allèrent manger ensemble dans un sympathique restaurant tout proche. Dave mangea bien et but deux verres de vin, qui le requinquèrent considérablement. Lorsque le repas fut terminé, il sortit la montre à gousset de Holly de la poche intérieure de son veston, enroula la lourde chaînette autour du boîtier et la poussa sur la nappe en direction de son fils. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Peter. « C'est un cadeau que m'a fait un ami, » dit Dave. « Il me l'a donné juste avant de mourir. Je veux que ce soit toi qui l'aies. » Peter tenta de la repousser. « Je ne peux pas la prendre, papa. Elle est trop belle. En fait, tu me ferais une faveur en acceptant. À cause de mon arthrite, ça m'est très difficile de la remonter. Et bientôt, je n'y arriverai plus du tout. Ce machin-là a au moins 120 ans et une montre qui a tenu aussi longtemps mérite de marcher aussi longtemps que possible. Alors, s'il te plaît, prends-la. » « Bon, si tu le dis comme ça. » Peter prit la montre et la laissa tomber dans sa poche. « Merci, papa. Elle est de toute beauté. » À la table voisine, si près que Dave aurait pu tendre la main et la toucher, était assise la jolie rousse. Elle n'était attablée devant aucun repas, mais nul ne semblait le remarquer. À cette distance, Dave voyait qu'elle était bien plus que jolie. Elle était authentiquement belle. Sans doute plus belle que la fille d'autrefois, glissant à bas de la camionnette de son copain, sa jupe fugitivement remontée sur ses cuisses. Mais où était le problème? Comme la vie et la mort, de telles révisions constituaient le cours ordinaire des choses. Le travail de la mémoire était non seulement de se souvenir du passé, mais encore de l'embellir. La rousse remonta sa jupe plus haut cette fois, révélant une longue cuisse blanche l'espace d'une seconde, peut-être même deux, et cligna de l'œil. Dave lui rendit son clin d'œil. Peter se retourna pour regarder et vit seulement une table de quatre couverts déserte avec un carton réservé posé dessus. Il se retourna vers son père en haussant les sourcils. Dave lui sourit. « J'avais juste une poussière dans l'œil. Elle est partie maintenant. Si tu demandais l'addition, je suis fatigué et j'aimerais rentrer. » En pensant à Michael McDowell,